Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Florent Guignard. Florent, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une réunion d'urgence à Paris entre une dizaine de dirigeants européens après les déclarations fracassantes des États-Unis qui marginalisent la place des Européens à la veille de discussions de paix pour l'Ukraine. Les rebelles du M23... sont entrés à Bukavu, dans l'est du Congo-Kinshasa, mais lors du sommet de l'Union africaine, aucune condamnation explicite du rôle du Rwanda. Dans ce journal, on parlera aussi d'un drôle de bateau chinois capable de produire du pétrole, tout en rejetant le CO2 produit. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez 8 milliards de voisins. L'Europe face à son destin après la conférence de Munich ce week-end où les États-Unis ont semblé exclure les Européens des futures négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une réunion a lieu aujourd'hui en France à l'Élysée avec les premiers ministres allemands, britanniques, polonais, italiens, espagnols, néerlandais, danois, en présence aussi de la présidente de la Commission européenne et du secrétaire général de l'OTAN. Réunion qui vient d'ailleurs d'être critiquée par la Hongrie. Ce matin, le chef de la diplomatie hongroise parle de dirigeants frustrés, pro-guerre et anti-Trump. Pour la France qui organise cette réunion d'urgence, les Européens doivent faire plus et mieux pour leur sécurité collective. Écoutez ce qu'en pense l'ancienne ministre française des Armées, Sylvie Goulard. Elle était l'invitée de RFI Matin. Elle espère un électrochoc pour l'Europe.
J'espère qu'elle se réveille surtout tout court. Sur le plan de la politique étrangère et de la défense, sans faire de mauvaises polémiques, et même si beaucoup de gens y travaillent activement, je crois que l'Europe ne pèse pas son poids dans le monde et qu'elle ne s'est pas organisée pour peser. Le monde a changé et tous les pays jeunes et dynamiques, parfois agressifs qui nous entourent, ne vont pas tolérer une horde d'Européens. Ils voudront avoir des interlocuteurs extrêmement identifiés et capables ensuite, par exemple, s'agissant de l'Ukraine, d'aligner des garanties de sécurité. J'étais dans la salle à Munich quand vous entendez le discours du vice-président américain, mais quand vous entendez aussi et surtout les appels à l'aide de Monsieur Zelensky qui nous dit que cette guerre n'est pas la guerre de l'Ukraine, mais que c'est la guerre de la Russie contre l'Europe, la Russie de Vladimir Poutine, évidemment, pas tous les Russes, eh bien, je crois qu'il faut entendre.
L'ancienne eurodéputée Sylvie Goulard au micro de Édouard Dupénoat, le Premier ministre britannique qui participe à cette réunion à Paris, se dit prêt à envoyer des soldats en Ukraine pour garantir la sécurité de l'Ukraine. La nouvelle diplomatie des États-Unis tous azimuts, le secrétaire d'État américain est arrivé tout à l'heure en Arabie Saoudite, où il sera là, question aujourd'hui en tout cas de l'avenir de la bande de Gaza avant une réunion avec une délégation russe, cette fois sur l'Ukraine qui aura lieu demain mardi. Marco Rubio a décollé ce matin de Tel Aviv après avoir apporté son soutien à Israël et une réunion du cabinet de sécurité israélien aura lieu ce soir sur la suite des négociations sur le sort des otages encore détenus par le Hamas. Ça fait 500 jours que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre 2023 à Jérusalem, Michel Paul.
Après une conversation entre le Premier ministre israélien et l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, une délégation israélienne se rend aujourd'hui dans la capitale qatarienne. Il faut le souligner, son mandat est réduit à la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Il s'agit notamment de l'entrée dans la bande de Gaza de quelques 60 000 maisons mobiles et de matériel de terrassement, en échange de quoi Israël veut obtenir la libération de 6 otages dans les tout prochains jours. Ce soir, réunion du cabinet de sécurité à Tel Aviv pour discuter de la seconde phase de l'accord. À l'issue de ce débat, de nouvelles instructions pourraient être envoyées aux négociateurs israéliens pour progresser vers une nouvelle étape. Rappelons que hier, Benjamin Netanyahou a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qu'Israël et les États-Unis avaient une stratégie commune dont les détails ne pouvaient pas tous être divulgués publiquement. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et alors que le cessez-le-feu est officiellement en vigueur au Liban, l'armée israélienne a ciblé aujourd'hui une voiture dans la ville de Saïda, la principale ville du sud Liban. Un homme a été tué dans une frappe de drone. On reste dans la région où les négociations entre la Turquie et le PKK, la guérilla kurde, progressent. Les deux parties tentent d'en finir avec des décennies de guerre. Correspondance à Erbil, au Kurdistan irakien de Lucas Lazo.
Massoud Barzani, leader historique du Kurdistan irakien, a accueilli ce dimanche à Erbil les émissaires d'Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK. Cette délégation joue les intermédiaires entre Öcalan, incarcéré en Turquie depuis 1999, et Ankara, afin de trouver une solution au conflit qui oppose la guérilla pro-kurde et l'État turc. Une déclaration historique d'Öcalan est attendue ces prochains jours. Il devrait inviter le PKK à se désarmer, une perspective incertaine mais qui suscite des espoirs parmi les Kurdes d'Irak. En effet, la guérilla fondée en Turquie s'est réfugiée dans les montagnes du Kurdistan irakien à partir de 1982. Le conflit s'y est déporté, entraînant avec lui son cortège de déplacements forcés et de victimes civiles, 650 depuis 2015, date à laquelle les précédentes négociations avaient échoué. Depuis, la présence militaire turque s'est amplifiée au nord de l'Irak, où les frappes de drones sont quotidiennes. Le message d'Öcalan a été bien reçu à Erbil, qui prépare une réponse en vue de finaliser les détails d'un cycle qui pourrait mettre un terme à une guerre qui dure depuis plus de 40 ans. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
À Paris, ce matin, s'est ouvert le procès de Mehdine Mouche, ancien djihadiste, le tueur du musée juif de Bruxelles, jugé en France, cette fois pour son rôle au sein de l'État islamique. Il est en particulier accusé d'avoir été le geôlier de 4 otages français, 4 journalistes. Et à l'ouverture du procès tout à l'heure, Mehdine Mouche a nié cette accusation. RFI, il est 11h06 à Paris. On va maintenant parler de la situation dans l'est du Congo. Kinshasa, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont fait leur entrée ce week-end dans Bukavu. Alors que du côté d'Addis Abeba, l'Union africaine était réunie en sommet des chefs d'État avec des échanges particulièrement houleux. Et à l'issue de ce sommet hier, ni sanction ni condamnation explicite du rôle du Rwanda, comme le réclame la RDC. Florence Maurice.
Un seul pays, le Burundi, a plaidé à huis clos ce dimanche pour que les chefs d'État condamnent le Rwanda en conclusion de leur sommet. Mais dans la salle, personne n'a rebondi, raconte un participant. Dans les couloirs aussi, beaucoup ont évité le sujet ou choisi de l'évoquer en des termes très flous. Le Kenyan Raila Odinga, interrogé par une journaliste, a tout simplement répondu « je ne veux pas en parler ». Il faut dire que la réunion du Conseil paix et sécurité de vendredi consacrée à cette guerre a été explosive. La RDC a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda pour son agression, je cite. Furieux, le président Kagame a rejeté l'entière responsabilité du conflit sur la RDC. Une tension telle que la conférence de presse prévue à l'issue a été annulée et que 48 heures plus tard, le communiqué final n'a pas encore été publié. Dans l'après-midi, le commissaire paix et sécurité, Bankole Adeoye, a tout de même donné une conférence de presse pour appeler au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées. Il n'a pas mentionné le Rwanda. Côté congolais, on se félicite que Kigali n'ait pas obtenu le siège que le pays briguait au sein de ce conseil paix et sécurité. Un vote sanction, selon certains analystes, même si d'autres facteurs ont pu jouer et que l'influence de Paul Kagame au sein de l'UA reste très importante.
On termine ce journal avec cette annonce de la Chine. La construction du premier navire offshore de production et de stockage du pétrole qui peut aussi capturer le dioxyde de carbone. RFI Pékin, Cléa Broadhurst.
Pékin dévoile le premier navire au monde à produire du pétrole tout en capturant le dioxyde de carbone qu'il rejette. Et ce navire va plus loin en transformant la chaleur des gaz d'échappement en électricité, un double avantage pour l'environnement et l'efficacité énergétique. Les gaz passent dans un système de ventilation avant d'entrer dans une tour de lavage où des filtres absorbent les hydrocarbures. Et cela permet de réduire les émissions de carbone rejetées dans l'air. L'innovation ne s'arrête pas là. Cette technologie peut être installée sur des navires déjà en service. Et c'est une avancée qui pourrait accélérer la transition vers une industrie pétrolière offshore plus durable. Mais pour un réel impact, il faudra une adoption à grande échelle. L'ajout du captage de carbone à l'extraction pétrolière est une première en mer. Jusqu'ici, ces techniques étaient surtout utilisées à terre. Appliquées aux plateformes offshore, elles pourraient grandement réduire les émissions du secteur. Et pour la Chine, premier émetteur de CO2, cette initiative s'inscrit dans son objectif de neutralité carbone d'ici 2060. Et c'est une avancée qui pourrait aussi inciter l'industrie pétrolière mondiale à suivre le mouvement sous la pression croissante pour limiter son empreinte environnementale. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
RFI à Paris, il est presque 11h10. C'est la fin de ce journal et dans un instant, vous retrouverez 8 milliards de voisins.